Bienvenue dans cette deuxième partie de C'est dans l'art, l'émission de recommandations culturelles de Radio Campus Paris. Dans la première partie, nous avons parlé du musée Atelier Bourdelle et de Amazing Digital Circus. Maintenant, place à la littérature, l'architecture et les arts de la scène. Et autour de la table, il y a Diane, Hortense, Hugo, Violette et Vladimir.
Sculpture,
littérature,
musique. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
De l'humour, de la poésie, du piano, du violon, un quatuor improvisé, rien que pour le plaisir de vos sens, le temps d'une soirée. Diane, dis-nous en plus sur les harmonautes dans les arts de la scène.
Alors, avant qu'on parle de ma recommandation culturelle, il faut que je vous avoue quelque chose. Je déteste improviser. Je peux le faire, je sais que j'en suis capable, mais quand on me dit « t'inquiète pas, fais un truc simple », improvise sans aucune autre indication ni commentaire. J'entends manque de clarté, manque de fond, manque de structure, manque de tout. Ça m'agace, ça m'énerve parfois et souvent ça me met en rage.
Alors Diane, c'est passionnant et je comprends que c'est un enjeu essentiel dans ta vie. Le rapport avec C'est dans l'art, avec ta reco, c'est un peu flou cette histoire.
Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'un spectacle d'improvisation.
Ok, bon, un spectacle d'improvisation, des mots tirés au sort, des thèmes imaginés par le public, j'imagine, un truc simple, vu et revu quoi.
Alors, pas tout à fait, parce que celui-ci, avec celui-ci, on vit une expérience un peu particulière. En fait, Harmonautes, c'est ça.
Harmonautes, c'est un spectacle poétique improvisé qui mêle musique, narration et interprétation.
Contrairement à de l'improvisation standard, avec des mots choisis au hasard, des thèmes imaginés par le public ou bien des lettres interdites, il y a des notes de musique, des mélodies, des styles à imaginer avec le public. Ce n'est donc pas un simple enjeu avec de l'improvisation et des thèmes, mais un double enjeu. Se synchroniser avec les comédiens de jeu et l'ambiance musicale. Les histoires qu'ils inventent et les univers dans lesquels on se plonge s'orientent vers des notions d'histoire et de rencontre. Comment inventer des mondes poétiques, humoristiques, harmoniques à partir de propositions singulières.
Donc je comprends mieux, l'enjeu n'est plus sur ce que tu dois donner, mais avant tout sur ce que tu vas ressentir sur le moment et donc partager avec le public. Et en plus, leur spectacle ne se veut pas que drôle, mais aussi envoûtant et féerique de ce que j'entends.
Exactement. Et c'est un quatuor formé par Daniel Sicard, pianiste et chef d'orchestre, Matteo Grollo, comédien et créateur de spectacles improvisés, Roxane Rabatti, violoniste, et Quentin Gouverneur, comédien.
À partir de mots qu'on me donne, par exemple 5, 7, 10 mots différents, je vais composer une histoire.
Canapé. Austral.
Austral. À la frontière du bleu, du vert, des couleurs froides, des couleurs... J'avais l'impression de voir une aurore boréale, des couleurs assez australes, et elle remarquait que cette forme-là était vivante.
Et parfois inversement, c'est-à-dire qu'à partir des mouvements qu'on me propose, des histoires vont arriver et je vais les mettre en mots, je vais les mettre en récit.
Ça y est. La surface crémeuse de la Lune accueille ses premiers pas.
Une fine équipe, dis donc. Mais Daniel Sicard, pourquoi ça me dit quelque chose ?
Alors c'est normal, c'est le chef d'orchestre de l'orchestre Curieux, l'orchestre qui a fait la bande originale de Clair Obscur Expédition 33 et qui organise depuis 2 ans la Curieuse Soirée sur Twitch. C'est d'ailleurs avec cette soirée que j'ai découvert Harmonautes. J'étais dans mon canapé, en pyjama, quand tout à coup un comédien est arrivé pour imaginer une histoire. Bon, pas une histoire des plus réalistes, mais c'était fantastique.
Ça a l'air pas mal cette histoire, ça me tente bien en vrai. Mais tu les as vus quand sur scène et qu'est-ce que ça a donné ?
En vrai, bah, c'était 10 fois mieux. C'était fou et surtout, c'était fascinant de voir les comédiens et les musiciens jouer et surtout s'amuser ensemble. On avait l'impression de voir des enfants. Et puis, voyager entre humour et poésie, se faire embarquer par la synergie de Daniel Sicard au piano et Roxane Rabatti au violon, c'est une aventure extraordinaire. On vit des aventures aussi explosives que bouleversantes, toujours uniques, grâce à notre propre participation. Alors, je vous conseille vivement de prendre vos places pour le 14 avril au Maestre Selva et de guetter leur prochaine date.
Harmonautes, c'est un spectacle toujours unique, à l'image des spectateurs et du public qui le crée avec nous.
T'as l'air pas mal. Hortense ?
Eh ben justement, pendant ta chronique, j'ai regardé en fait sur Internet quand était leur prochain spectacle. 14 avril, c'est le jour de mon anniversaire, je ne serai pas disponible. Mais ça a l'air vraiment trop chouette, je trouve. En fait, justement, ce concept de revisiter l'improvisation qui peut être... Moi, je ne m'y connais pas tant en théâtre. Et donc, justement, j'ai un peu cette idée de l'improvisation qui serait un peu le micro-trottoir du théâtre. Et du coup, là, je me dis, bah, le revisiter et le conjuguer à de la musique, à quelque chose d'orchestral, etc. J'ai l'impression que ça a l'air trop bien.
Hugo ?
J'avoue, au début, j'étais un peu perplexe. Et puis en vrai, quand t'as parlé du curieux orchestre, ah là là, tu m'as convaincu instantanément. Parce que pareil, j'ai découvert l'orchestre par la curieuse soirée. Mmh. Et vraiment, allez regarder les gens, c'est super bien. Il y a des improvisations aussi qui sont faites. Il y a des mélanges de genres assez farfelus. Je crois qu'il y a eu un moment, la chanteuse de Clair-Obscur, elle a repris du Joule en oui. opéra.
C'était très drôle.
C'était incroyable, vraiment. Je pense que je vais essayer d'aller à cette soirée.
Et leur objectif, du coup là c'est à peu près le début des spectacles d'improvisation qu'ils font, etc. Et leur objectif c'est que dans un an ils font La Cigale.
Oh. Okay.
Donc on croise les doigts et je crois qu'ils ont normalement ils font Avignon cet été et tout, donc ils sont vraiment au début de tout ça. Mais du coup c'est drôle de les voir au début un peu en train de bricoler, de voir c'est quoi la meilleure synergie à avoir, mais ouais.
C'est le moment de les voir pour pouvoir dire bah oui, moi j'étais là dès le début, enfin
on dit, moi je l'écoutais danser dans l'art, j'en ai parlé.
Mais surtout le curieux orchestre, vraiment c'est super ce qu'ils font.
Violette.
Ben, franchement, ça a l'air assez exceptionnel, et puis une sorte de parenthèse dans le temps. Et même au niveau de je pense pour les comédiens, ça doit être hyper riche en fait, parce que c'est un spectacle qui se réinvente tout le temps en fait, avec le public qui est hyper dynamique. Et franchement, cette idée aussi d'écriture un peu automatique, très proche de la poésie, etc., du surréalisme, je pense que franchement, ça a l'air très très intéressant.
Vladimir.
Moi je suis pas du tout un grand fan du théâtre d'impro, surtout en France.
Mais t'es fan de quoi ?
Je suis fan du théâtre. Je suis fan de plein de choses, notamment vous allez découvrir dans ma chronique après. Mais non, c'est juste qu'à la base je trouve que c'est un truc qui est très anglo-saxon, très ricain, qui demande quand même beaucoup d'extraversion. C'est ça qu'on dit, d'extraversion. Et qu'en France, on a du mal avec ça. Donc le théâtre d'impro français, surtout, j'ai un peu du mal. Mais là, du coup, je trouve qu'ils y ajoutent une touche qui est quand même beaucoup plus, beaucoup plus poétique. Et justement, et puis il y a un peu du spoken word, un peu, j'ai l'impression, dans la manière dont ils racontent les histoires. J'ai l'impression que c'est vraiment de la poésie qui est clamée sur de l'improvisation orchestrale. Et je trouve qu'ils se réapproprient le truc. Et surtout, c'est en phase d'expérimentation. Donc j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner au fur et à mesure qu'ils arrivent à constituer une équipe solide. Je dis pas que tout le théâtre d'impro est nul en France. Hein. Je dis pas du tout ça. Mais de ce que j'en ai vu,
non, mais c'est
à chaque fois, ça me.
Non, parce mais que justement, c'est quelque chose de très riche, moi je suis intéressant de creuser. Pourquoi ?
Parce que, parce que très souvent, c'est une manière de rentrer dans le théâtre pour des personnes qui n'ont jamais fait de théâtre avant. Donc en fait, ça se mélange avec à la fois parfois des séances de team building, parfois des gens qui veulent essayer, enfin qui veulent pas forcément, c'est pas forcément très professionnalisé, en tout cas dans ce que moi j'en ai vu. Et même quand c'est professionnalisé, je trouve qu'il y a toujours des moments de flottement, que c'est très très dur d'arriver à une espèce d'osmose où tout se marche extrêmement bien. Et je trouve qu'en France, on n'a pas encore ce côté très extraverti que tu peux avoir aux États-Unis où les mecs arrivent très très facilement à rebondir. En France, on est beaucoup trop conscient de nous-mêmes et autocritique pour réussir à avoir cette espèce de folie qui marche dans le monde anglo-saxon. Après, ça a tendance à évoluer, je trouve.
Ouais, c'est ça. Moi, je me dis, est-ce que c'est pas parce que nous, on a peut-être, je sais pas, une espèce de pudeur, même en tant que public, enfin, par exemple, enfin, même dans les one-man shows, etc., en fait, on n'est pas forcément toujours prêt à... Enfin, on se prend trop au sérieux, en fait, et du coup, on n'est pas forcément prêt à rentrer dans des univers.
Est-ce que t'as déjà fait des matchs d'impro ?
Est-ce que j'ai déjà fait des matchs d'impro ?
Est-ce que tu as déjà vu des matchs d'impro ?
Ouais, j'ai déjà vu des matchs d'impro, ouais.
Parce que moi, je crois qu'en France, il y a la Ligue d'improvisation professionnelle ou un truc comme ça. Donc, il y a vraiment des gens qui font ça depuis des années et c'est leur métier d'être improvisateur. Et moi, j'ai déjà fait plusieurs matchs d'impro. J'étais avec ma mère et je trouve que c'est assez fou, par contre, d'aller voir ça parce que tu as vraiment un cadre. C'est un ring de boxe qui est reconstruit. Monsieur Loyal, on va dire, c'est un mec qui est vraiment habillé dans un certain style, etc. Même les tenues des équipes d'improvisation, c'est des tenues de hockey et tout. Enfin, je trouve que il y a un peu une... Comment dire une énergie, une ambiance particulière à voir.
Après, il y a des moments de grâce dans les matchs d'impro qui fonctionnent hyper bien. Mais je pense que c'est justement, je dis que c'est un truc très ricain parce qu'il faut que les gens sur scène soient à l'aise, il faut que le public soit hyper en soutien aussi. Et nous, en France, parfois, quand le public il aime pas, bah tu le sens quoi, tu le sais quoi, c'est compliqué quoi.
Vous êtes allé au Grand Showtime ou pas ? Au point virgule ?
Non.
Parce que c'est de l'impro et je trouve que pour le coup, ce truc de manque d'extraversion, je l'ai pas trouvé.
Non, mais je dis que ça a tendance à évoluer. Moi,
justement,
parce que là, du coup, c'est de plus en plus des concepts, même maintenant pour les.
Ça fait quelques années que je suis allé voir le Grand Showtime, mais je sais pas.
C'est quoi le Grand Showtime ?
Le Grand Showtime, donc c'est au point virgule, c'est les vendredis et les samedis, 22h30 minuit. Ils sont une petite dizaine et souvent ils sont 3-4 dans la salle et ils font de la pro avec les mots qui arrivent. À un moment, ils font intervenir une personne. J'y suis allé avec quelqu'un qui a fait un chat littéralement un chat qui a fait plein d'animaux différents sur la scène. Et je sais pas, j'arrive pas à retrouver ça. Et c'était l'impro. J'en fais pas, hein. J'en fais très très peu. Mais tu vois, les deux, trois fois où j'y suis allé, je sais pas, j'étais dedans et je trouvais que c'était
bien. Moi, je l'ai dit dans mon expérience personnelle. Et encore, je dis, il y a des moments où ça marche hyper bien. Et du coup, c'est tant mieux que ça se professionnalise. Voilà, c'est ça, que ça se développe, etc.
Moi, l'impro, j'y ai été exposé surtout sur Instagram ou TikTok, sur les reels et tout. Genre, je sais que ça marche très bien.
Après, sur Insta et TikTok, ils mettent ce qui a marché, mais pas les sketchs qui ont planté.
Mais du coup, moi j'aime bien, il y a des concepts, tu sais, où genre chacun dit un mot et il doit faire une phrase. Moi je trouve ça hilarant.
Ouais, c'est vrai que je trouve ça assez ouf. Merci Diane, en plus c'est bien, ça fait animer pas mal la table, ça crée un peu de
toujours
de
là
débat.
Pour des bonnes recos, tu sais, Fabrice.
C'est bon à savoir, c'est ce qu'on veut ici.
Art visuel, art médiatique, art de la scène. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Vladimir, tu as rencontré Croc Brick aux Utopies bétonnées du 13e, dis-nous en plus.
Oui, alors ça fait depuis juillet dernier que j'ai déménagé à Paris et j'évolue depuis dans cette architecture mondialement connue, celle de l'île de la cité et ses siècles d'histoire, celle de l'uniformité haussmannienne des grands boulevards ou encore celle du charme fleuri de Montmartre. Cette architecture que des hordes d'agences et de guides font visiter à longueur de journée à des troupeaux de touristes du monde entier. Mais j'avoue que c'est un Paris que je trouve parfois trop enfermé dans une bulle d'histoire et un Paris devenu inaccessible pour les Parisiennes et les Parisiens, contraints de vivre en périphérie. Alors, qui pour nous faire découvrir le Paris dans lequel nous habitons, travaillons, étudions? Qui pour nous faire découvrir l'autre Paris, le Paris vivant et bizarre? Alors j'ai cherché et j'ai trouvé un rendez-vous pris samedi, place d'Italie, pour une visite intitulée « Les utopies bétonnées du 13e arrondissement ». On est accueilli par un gaillard aux cheveux ébouriffés, équipé d'un micro qui sature et d'un sac rempli de plans d'architecture et d'un livre qu'il doit absolument rendre à la médiathèque parce qu'il est en retard depuis 3 semaines. Il s'agit de Hugo, alias Croc Brick. Et son créneau à lui, c'est de faire des visites sur l'architecture moderne post-Seconde Guerre mondiale. Et dans le public, on trouve essentiellement des franciliens, des habitants du quartier, des profs et même un couple qui fêtait son Pax. Et il commence la visite par cette devinette. Quelle est la différence entre un assassin et un architecte?
Waouh, bonne question. Dis-nous.
Eh bien, l'architecte, il ne revient jamais sur le lieu de son crime. faut l'avoir, celle-là. Le groupe embarque donc derrière ce drôle de personnage pour une visite de presque 2 heures à la découverte de ce qu'il appelle l'architecture de l'utopie verticale. Et il nous fait découvrir le 13e arrondissement dans tout ce qu'il a de décousu et d'absurde, où l'on passe du charme de la butte aux cailles et son architecture typique des vieux faubourgs à la construction massive de tours immenses et modernes des années 70. Comme ici, rue Vendrezanne, et je vous laisse plonger dans son univers.
Vous êtes rue Vendrezanne et avec le soleil aidant, il y a un petit air de vacances, quoi. On est quelque part dans une ville qu'on connaît pas, dans le golfe de Gascogne. On marche sur les pavés, on sent qu'on va arriver sur un petit marché traditionnel. On achètera un cendrier en céramique, même si on a arrêté de fumer, bref. On a le cœur en vacances, à l'inconnu. Et puis voilà, à un moment, on tourne la tête sur la gauche et au lieu de tomber sur une église romane, vous avez une falaise de 100 mètres de haut, toute blanche, qui se dresse. Et en fait, l'absence totale de gradation entre le bâti faubourien et l'architecture moderne qui se dessine sur la gauche est quelque chose qui aujourd'hui encore est malheureusement mal digéré par les Parisiens.
Donc vous l'avez compris, Croc Brick, c'est une ambiance, c'est une voix nonchalante, une mine de connaissances saupoudrée d'un humour vraiment contagieux. Il casse les idées préconçues qui voudraient que les grandes tours aient été construites seulement pour des logements sociaux. À l'époque, pas du tout. Ces habitations s'inscrivaient dans une utopie moderniste expérimentée dans le 13e, à l'époque où l'architecture était le reflet d'un idéal d'un homme nouveau. On imaginait des ensembles qui se voulaient entiers, donc en bas des dalles qui rassemblaient des galeries commerçantes et des parkings, et en haut des habitations propres et lumineuses. C'est un exemple dans le quartier des Olympiades notamment. Il nous fait aussi voir les tours de Tolbiac, mal pensées parce que l'entrée de l'université peut être bloquée par les étudiants avec seulement 2 poubelles. Il nous explique aussi la lubie de l'architecte d'un ensemble rue Baudricourt qui voulait que toutes les fenêtres soient différentes. Il nous raconte comment les Parisiens ont snobé ces nouveaux ensembles trop modernes et que les populations immigrées s'y sont installées avec bonheur car ils étaient propres et lumineux, ce qui explique en partie la présence d'une forte population asiatique dans le 13e. Bref, vous l'aurez compris, avec lui, nos préjugés s'estompent et ce qui nous semblait a priori laid et massif finit par nous émerveiller. Alors quand je lui demande ce qu'il pense du laid et du beau en architecture, voilà ce qu'il me répond.
Je pense qu'il y a quelque chose qui est bien pire que d'être moche, c'est d'être ennuyeux, c'est d'être idiot, d'être mal placé, et ça c'est une question de justesse.
Alors que faut-il faire de ces tours massives aujourd'hui jugées trop moches et encombrantes? Le sont-elles vraiment? Faut-il les raser et reconstruire moins haut? Faut-il les laisser croupir en les ignorant? Ma croque-brique y propose une approche alternative. Accepter que ces constructions ont du mérite, qu'elles font partie d'une histoire architecturale vivante, qu'il faudrait plutôt rénover et préserver. Une chose est sûre, moi, j'ai envie de découvrir le Paris des périphéries avec lui, de Bagnolet à Montreuil, de Belleville à Place des Fêtes, et je vous encourage vraiment à faire de même. J'ai adoré croquer la brique avec Hugo, ça vaut vraiment le détour.
Humaine, qui a envie de réagir? Violette, allez.
Moi j'ai une question, pourquoi croque-brique? C'est par rapport au dessin, croquer...
Alors bon, aucune idée, okay, c'est vrai que je vais pas poser la question, mais je pense qu'il y a peut-être une expression genre croquer de la brique, genre, c'est-à-dire que tu vas toujours t'alimenter de plein de choses que tu vois, du béton, du machin, etc. Moi je le vois comme ça, après faudrait lui demander.
Okay. Violette, t'en as pensé quoi là, ça te dit ou pas?
Carrément, en fait je trouve ça hyper intéressant parce que justement cette mise en tension entre tradition et modernité, c'est vraiment quelque chose qui est présent. Enfin, c'est un topos, c'est un lieu commun qui est présent même, dans la littérature depuis hyper longtemps. Et en fait, Paris, c'est un lieu de flânerie par excellence. Et je trouve ça hyper, hyper chouette qu'on puisse arborer des coins qui sont pas en fait dans l'idée qu'on se fait du Paris romantique et romanesque surtout.
Hortense.
Moi, j'habite dans le 13e, ça m'a beaucoup plu. Et je me pose une question, est-ce que vous êtes allé justement Avenue de France, vraiment dans le quartier en fait hyper contemporain sur les bords de Seine?
Alors pas sur ça, il l'a juste regardé un petit peu de loin parce que du coup la visite était quand même vachement dense, donc du coup il avait beaucoup de choses à raconter, et lui il était plutôt il s'arrêtait vraiment dans les années 70-80 parce que du coup pour lui cette utopie là elle était très intéressante, c'était là-dessus qu'il avait envie de faire son truc. Après on a regardé la tour Jean Nouvel au loin, la toute nouvelle qui vient d'être construite, etc. Il fait aussi une visite, mais après il en fait plein des visites. Je crois qu'il en fait aussi une visite autour de la BNF, donc ça du coup il y a peut-être moyen que ça ressemble vraiment à ça.
Que moi le 13e en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est, alors je dis pas que forcément ça a créé de la mixité sociale, mais c'est la diversité que peut y avoir en termes architectural entre la butte aux cailles, le quartier Olympiade, les bords de Seine et ce quartier hyper bizarre justement d'affaires à moitié, où en fait tout est un peu orienté sur le fait que c'est des gens qui sont là, ils mangent que le midi, il y a pas de boulangerie, enfin c'est trop bizarre. Et puis t'as une fac au milieu, enfin je trouve que il y a vraiment un truc bizarre dans le 13e qui est que tout est un peu foutu étrangement. Il y a deux facs qui sont implantées là, t'as aussi la Bulac, donc c'est un quartier qui est étudiant, un quartier qui est là où il y a beaucoup de mecs qui sont dans le commerce, des trucs d'affaires, etc. Donc t'as du coup tout le quartier asiatique et puis un peu le côté beaucoup plus bobo, butte aux cailles, enfin après c'est un peu plus loin les buttes aux cailles, mais il y a vraiment ce truc de... Des fois, tu comprends pas qui sont ces gens et comment ça a été pensé.
Franchement, Hugo, il habite dans le 13e, donc du coup, comme ça qu'il a commencé ces visites-là. Donc c'est vraiment sa première visite qu'il a faite, donc elle est ultra rodée. Après, moi, j'aimerais bien en faire d'autres avec lui. Puis, du coup, si t'as envie de découvrir ton quartier comme jamais, c'est vraiment une très très bonne manière
de le faire. Et puis même la rue de Tolbiac, elle est bizarre. Enfin, d'un trottoir à l'autre, t'as que des kebabs et des alimentations générales. Puis tu vas sur l'autre trottoir, t'as que des boucheries, des fromagers.
Je suis d'accord.
Enfin, c'est hyper étrange.
C'est vrai que le 13e, il est chelou parce que t'as les Gobelins, Austerlitz, après tu te rapproches de Porte d'Orléans et tu te retrouves justement Diderot, enfin je sais plus si ça s'appelle Diderot, mais t'as Diderot, Porte de France, le quartier vraiment avec les voies ferrées qui occupent une place énorme. C'est vrai que ce quartier, il est très éclectique.
Très intéressant. Ouais.
Hugo ?
Moi justement j'habite aussi dans le 13e et j'habite précisément entre Olympiade et la BNF.
Ah ouais.
Ah moi aussi.
Ah on en parlera après.
On va pas dire nos adresses.
Et justement moi ce que j'aime beaucoup cet arrondissement parce qu'il est tout en contraste et tu peux te faire des balades d'une heure dans le quartier, t'auras vu 5 paysages différents parce que de la butte aux cailles, on part de la butte aux cailles pour aller jusqu'à la BNF, on traverse donc des espaces un peu traditionnels, un peu petit village, grands immeubles style utopie bétonnière, des immeubles haussmanniens aussi vers le boulevard de l'hôpital, puis on arrive à ce quartier un peu d'affaires, très très huppé, très tourné vers les cadres, avec je crois qu'il y a des banques.
Très la Défense.
Exactement. Il y a tout. Genre, c'est vraiment tourné pour les gens qui ont de l'argent.
Tandis que juste en dessous, rue du Chevalerie, t'as un foyer africain, etc. Donc tu vois aussi les gens.
Tu marches 10 minutes rue de Tolbiac, t'arrives autour d'Olympiade et tout. Et vraiment, cette rue, c'est ce que tu disais. Il y a un côté, il y a un Ibis Hôtel de luxe, vraiment très huppé. Et en face, t'as le. t'as, je sais plus comment ça s'appelle, croque de bibliothèque, c'est un kebab.
Ça s'appelle vraiment
croque de bibliothèque.
Oui. Et on y mange franchement assez bien.
Et c'est vraiment juste un kebab. C'est pas épais, genre
c'est pas un
kebab.
Truc genre kebab bibliothèque. C'est juste un kebab.
J'espère que le kebab est à 5 balles quand même. Parce qu'il faut se respecter.
Le kebab est très bon, c'est jamais. Mais oui, mais du coup, tu m'as grave donné envie.
Bah, vous comprendrez l'histoire de ce quartier.
On va y aller ensemble.
Franchement, réservé, parce que ça vaut vraiment le coup.
Vienne.
Bah, moi, je n'habite plus dans le 13e, mais j'ai habité dans le 13e. J'habitais juste à côté de l'arrêt glaciaire. Et ça me fait rire parce que et ça me fait rire parce que pendant un temps j'avais une de mes amies j'ai une amie à moi qui travaillait à la RATP et qui à chaque fois que passait à Glacière me faisait une photo de l'arrêt de métro et maintenant que je n'habite plus dans le 13e, elle, à chaque fois qu'elle passe à Glacière elle me reprend une photo de l'arrêt Glacière donc j'ai une relation avec l'arrêt Glacière assez importante.
Oui, il y avait l'ancien CS du Monde et qui a déménagé toujours dans le 13e à Austerlitz.
Mais pourtant pendant un temps il y avait encore les trucs du Monde, etc. C'était assez drôle.
Impressionnant d'ailleurs, à passer devant, on dirait un journal.
Et c'était assez drôle parce que du coup, moi, souvent, le week-end, je me faisais des balades où je partais de chez moi et j'allais à pied jusqu'au Panthéon. Et en fait, c'était trop sympa parce qu'en plus, le Panthéon est gratuit et tout proche, etc. Donc j'allais jusqu'au Panthéon gratuit. J'allais me faire ma balade du week-end jusqu'au Panthéon, c'était trop beau. Donc ouais, je suis bien d'accord. Moi aussi, j'ai envie d'aller visiter les quartiers de Paris et les quartiers d'Île-de-France.
Croque-Brique, comment est-ce qu'on prend rendez-vous avec lui ?
Il y a un site internet sur lequel tu peux réserver toutes les visites que tu veux. Il en fait plein, etc. Donc tu regardes. Ils ont des tarifs réduits, je crois que c'est 9€ la visite pour les gens un peu en galère. Les aristocrates fauchés, c'est comme ça sur son... Il dit genre les étudiants, les chômeurs ou les aristocrates fauchés, il met ça sur son truc. Et
il y a une preuve d'être un aristocrate fauché ou faut...
Si t'as perdu ta particule... Avec...
Ouais, c'est ça. Ta carte d'identité particule rayée, là, c'est bon, il prend, quoi. Non, il est vraiment trop chouette. Et très facile de trouver des créneaux. Après, bon, la visite du 13e, c'est la plus populaire. Donc, du coup, en général, faut s'y prendre un peu à l'avance. Mais
trop cool, ça.
Vive le 13e.
C'est dans l'art. Sur Radio Campus Paris.
Violette, tu as lu Protocole de Constance Debray. Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Alors oui, aujourd'hui, en effet, je vais vous parler d'une œuvre qui n'a pas été facile à lire pour moi, mais qui, néanmoins, a suscité un intérêt profond. Car elle remet en cause énormément de choses. D'une part, le fonctionnement du système carcéral aux États-Unis, et d'une autre, la nature même de l'homme, sa docilité, son obéissance, bref, cette forme de violence qui semble nous être intrinsèque. Donc il s'agit du dernier roman de Constance Debray, intitulé « Protocole ». Donc, c'est une écrivaine qui est ancienne avocate et elle s'est penchée pendant plus de 2 ans sur les diverses procédures d'exécution qui sévissent encore dans les différents États aux États-Unis. Donc, l'écriture tranchante comme un hachoir oscille entre description froide des protocoles d'exécution pratiqués dans les prisons et narration quasi impersonnelle de simples instants de vie. Tout paraît immobile, il fait toujours beau, pourtant... « Il y a quelque chose d'inquiétant dans l'air », écrit Constance Debray. Et cette phrase, en fait, est très intéressante puisqu'elle semble contenir à elle seule le paradoxe qu'a essayé de mettre en avant l'écrivaine. La mort sévit partout comme un secret que personne n'a envie de découvrir, et la vie continue. La narratrice, dont on ignore tout, même le nom, dissèque les différentes réglementations, les pratiques d'exécution perpétrées dans les prisons, donc de la chaise électrique à la pendaison, en passant par l'injection, l'écriture fragmentée ne cesse de répéter les mêmes mots, les mêmes verbes, repris dans un mouvement continu. L'homme, l'équipe d'exécution, le directeur, le corps. Et ces anaphores en viennent presque à vider de leur essence ces prétendus sujets. Et c'est ce qu'on pourrait appeler un phénomène de satiation ou de saturation sémantique.
Et c'est quoi la saturation ou la satiation ?
Satiation. Alors, c'est un phénomène psychologique au cours duquel le lecteur, à force de proférer indéfiniment en boucle en fait, certains mots, en oublie temporairement le signifié. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça veut dire que l'écriture, elle est mimétique. Elle est à l'image de l'horreur. Elle ne laisse que les dépouilles des mots, à l'instar de toutes ces exécutions, de tous ces protocoles, qui ne laissent que des cadavres inanimés. Et l'écriture de Constance Debray m'a rappelé à certains moments les concepts développés par Michel Foucault dans Surveiller et punir.
En même temps que d'interroger notre rapport au pouvoir, l'écrivaine tente de nous faire comprendre à quel point le système carcéral aux États-Unis repose sur cette idée de, permettez-moi ce néologisme, déresponsabilité. Ce n'est pas l'homme qui tue. Elle écrit « Ce n'est au fond la décision de personne. C'est un enchevêtrement de règles, de causes et de faits. » Au final, ce livre dépasse son propre sujet. Dans un récit où Eros et Thanatos bâtissent folle, on comprend vite que la prison en elle-même, c'est la mort avant la mort. Comme le dit Foucault, son action sur l'individu doit être ininterrompue. Elle a ses mécanismes internes de répression et de châtiment.
Et face à cette monstruosité, on pourrait se demander ce que peuvent les mots, en fait.
Eh bien, je terminerai par cette phrase écrite par Constance Debré et qui apparaît dès les premières pages. La loi rend toute la littérature obsolète. Et son livre peut être, quelque part, une réponse à cette allégation. En écrivant un roman déconstruit et froid, à l'image de ses protocoles, Constance Debré s'offre à nous en contre-exemple et réactive en même temps toute une mémoire littéraire autour de la figure du condamné. Mais surtout, elle nous rappelle que la modélisation, le formatage, passe avant tout par l'agencement de ses mots.
Hortense ?
Eh ben, c'est très intéressant, ça touche une question qui est hyper politique, la question des prisons, et qui est aussi une sorte, je trouve, d'impasse. En fait, on continue à, malgré qu'on... Enfin, j'ai l'impression que tout le monde sait que c'est franchement pas une solution, et puis on continue à garder ce modèle-là. Enfin, en fait, je dis tout le monde sait, mais non, il y a des gens qui sont absolument convaincus que c'est super. Mais du coup, en fait, c'est hyper intéressant, et surtout, moi, c'est vrai que je suis une lectrice qui lit beaucoup... justement les histoires et assez peu derrière justement le vocabulaire sémantique, etc. Donc je trouve ça très agréable d'avoir cette analyse et puis de pouvoir comprendre à quel point la littérature c'est aussi un langage presque inconscient et un peu, j'ai pas le mot, mais bon, voilà, qu'on voit pas directement. Donc très intéressant et ça donne envie de le lire, même si effectivement ça a l'air dur.
C'est très dur.
Voilà, ouais, c'est-à-dire, ouais. Ça donne peut-être envie de lire certains extraits.
Ouais. Vladimir.
Ouais, bah en effet, ça n'a pas l'air facile. Ça n'a pas l'air facile du tout. Cette écriture très procédurière sur quelque chose de vraiment affreux, ça me fait penser à Solzhenitsyn, dont j'essaye de lire en ce moment L'archipel du goulag, parce que c'est vraiment pas facile. Mais lui, il arrive à traiter les choses à la fois avec beaucoup d'humour et de détachement, et parfois genre, très procédurier pour montrer ça. Mais ça a l'air d'être un bouquin qui est fascinant, qui a l'air de hanter beaucoup. Mais j'ai peut-être une antidote pour ça. c'est qu'il y a une BD que j'ai énormément aimée, qui parle aussi du système carcéral aux États-Unis, notamment du couloir de la mort, qui s'appelle Perpendiculaire au soleil.
Je l'ai chez moi, on m'a dit de surtout, surtout pas le lire un jour où je suis pas bien.
Ouais, alors c'est à la fois extrêmement triste, donc mais à la fois c'est beaucoup d'espoir.
Parce que tu es pas bien.
Parce que je vis un moment très pas stable du tout, donc dès que je serai un peu plus stable, je le lirai.
Prends ton temps. Mais c'est vrai que ça vient de vraiment une correspondance entre une personne, enfin une asso qui permet de faire des correspondances entre des personnes et des condamnés à mort dans le couloir de la mort. Et là, en l'occurrence, c'est la manière aussi de pouvoir se rendre compte de l'injustice du système carcéral américain, de procès qui vont beaucoup trop vite, et aussi de se rendre compte de l'autre côté, qu'il y a vraiment des individus, des personnalités, des personnes qui ne se connaissent pas du tout. C'est l'histoire d'une Française et d'un Américain qui ne se connaissaient pas du tout avant, qui apprennent à se connaître, etc. Tout ça. Donc c'est extrêmement poétique, c'est extrêmement beau, mais putain, c'est rude aussi, quoi, de se rendre compte que ce genre de choses existent encore aujourd'hui, quoi.
Diane.
Bah oui, ça a pas l'air facile. Moi, je pars en vacances, je pense que je vais pas me prendre cette lecture pour me reposer et penser à autre chose. Mais ça a l'air intéressant. Je pense que là, ça m'attire pas assez pour que je puisse me dire je vais aller l'emprunter à la bibliothèque ou l'acheter. Mais je pense que c'est intéressant de questionner ces sujets-là, des prisons, etc. C'est aussi important de questionner la place des prisons qu'on a en France, etc. Donc, intéressant à questionner et à réfléchir, en tout cas. Je pense que c'est intéressant d'en parler, en tout cas, entre personnes qui, en plus, moi je suis jamais dans une prison, j'espère ne jamais y aller. Et c'est particulier, j'ai une de mes collègues de promo qui fait son alternance dans une association qui accompagne des détenus ou des proches de la sortie. Dans la réinsertion professionnelle, c'est pas facile du tout, quoi. C'est... Des fois, tu te reçois toute seule avec 10 mecs, t'es en mode bon. Je vais y arriver, je vais essayer de garder mon sang-froid, c'est pas facile, quoi.
Puis c'est ça, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui nous est presque caché. Enfin, en fait, moi je sais pas à quoi ressemble une prison, je sais pas c'est quoi le quotidien. Enfin, déjà, c'est loin de nous théoriquement, et puis ouais, on n'a aucune image, j'ai pas d'imaginaire en fait, ou alors un imaginaire qui est très. Enfin voilà, c'est les dessins animés, la prison avec les barreaux quoi, c'est pas tout ça.
Hugo
Bah, déjà, moi je dois dire que ta chronique m'a beaucoup touchée. Genre, je trouve que t'as une façon de présenter les choses qui est très très belle, Violette. Après, je ne lirai pas ce livre pour des raisons de santé mentale.
Je peux comprendre.
Mais tu m'as quand même donné envie de le faire. Je ne le ferai pas quand même, mais. surtout que le sujet de la prison, c'est un sujet complexe, comme disaient les autres. Moi, je suis aussi carcéral, notamment pour les enfants. En fait, je suis pour l'abolition de toute prison pour mineurs, très clairement. Parce que je suis un étudiant socio et je considère qu'en fait, un enfant, déjà, je considère que tout le monde peut changer, mais au-delà de ça, notamment pour les enfants, on est en construction, genre, même, je dis la minorité, donc à 18 ans, mais même on pourrait débattre d'aller plus loin, mais quand on est enfant, on est tout le temps en construction et donc. L'intérêt, c'est, sa place n'est jamais en prison, au contraire. Si tu disais Diane, pardon, pour avancer, c'est super.
Ça confond les femmes.
j'ai fourché. Tu m'as perturbé.
Sortez tous les enfants des prisons.
Un enfant, pour son truc, il a besoin d'un foyer stable et sa place en prison, ça ne construit pas des individus stables. Mmh. Et surtout, il y a un projet que j'ai et que je parle pas beaucoup, c'est que moi, j'aimerais bien donner des cours en prison pour les prisonniers en temps. Je fais de la socio, je fais de l'éco. J'aimerais bien donner des cours en prison parce que c'est des êtres humains. Et ouais, je suis d'accord que c'est des condamnés, c'est des criminels en soi, mais genre, c'est pas parce que c'est des criminels qu'ils méritent qu'on oublie leur humanité. Mmh.
J'aimerais terminer avec cette note. Il existe une prison ouverte en France. Elle existe, elle est en Corse. Et je vous laisse là-dessus méditer avec ça. Protocole de Constance Debré, sorti le 7 janvier dernier, disponible aux éditions Flammarion. C'est dans l'art, touche à sa fin pour ce soir. Retrouvez-nous sur radiocampusparis.org, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM. Merci à vous tous autour de la table, toutes et tous. Diane, Hortense, Hugo, Violette, Vladimir pour vos chroniques et vos réactions. Merci Eléa à la technique. La soirée continue sur Radio Campus Paris pour nous réécouter les plateformes de podcast, mais aussi radiocampusparis.org. Suivez-nous également sur Instagram, c'est dans l'art RTCP, tout attaché. Portez-vous bien et vive l'art sous toutes ses formes.
Et merci à toi Fabrice.
Merci Fabrice.
Ouais. Merci pour la fine équipe.
Retrouvez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle sur radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de musique à la demande.